Alors il semble que nous ne perdons pas notre temps en consacrant une petite heure à l'examen de ce que c'est réellement dans son authenticité humaine, un homme de cette taille. Alors actuellement, regardons son destin, il était né en 1959, ça fait 11 ans avant la guerre franco-prussienne, de 1870, comme vous le savez, où il était né, vous le savez sans doute, à Castres, Castres dans les Tarnes, c'est ce qu'on appelle en France le Limoncard, et c'était ses parents, des gens pauvres. Son père avait fait beaucoup de métiers, il était à la fin de sa vie colporteur de campagne. Il avait épousé une femme qui avait un tout petit domaine, tout petit, vous savez, ses opères assez bien, il y avait 4 hectares et demi, il avait un peu de maïs, un peu de blé, et surtout avec ça que nous vivait. Dans une famille, il y avait deux enfants, deux garçons, très rapprochés, il y avait 11 mois de distance, il y avait Jean Jaurès et puis il y avait Louis Jaurès. Ces deux enfants avaient en ça à sa carte, à l'archet de Gagne, la compagnie dont je vous parle, était à 7 km et de Castres, alors il faisait à pied, et quelques temps ici, les deux enfants à l'école, comme ça, ils avaient un petit casse-croûte pour midi. Il racontera plus tard que Louis et Jean se faisaient mutuellement répéter dans le son en marchant vers la classe. Et ils étaient tous les deux de bons petits garçons brillants. Et quand on avait demandé au petit Jean Jaurès, qui avait 11 ans, 12 ans, ce qu'il voulait faire, il savait ce qu'il voulait devenir. Il désirait être receveur de poste, diriger un petit bureau de poste. Et le papa, qui était un pauvre homme, se félicitait d'avoir un enfant raisonnable qui voulait être fonctionnaire. Alors, figurez-vous qu'il est arrivé un envoyé du destin, pour ainsi dire, c'est-à-dire un inspecteur général, qui avait des tours, qui était venu, alors que le petit Jaurès avait 11 ans et demi, 12 ans, qui était venu en inspection à Castres. J'ai été longtemps professeur, j'ai vu ce qui se passe lorsqu'on annonce la visite d'un inspecteur, on met en avant ce qu'il y a de mieux dans la classe. Alors, lorsque ce monsieur Deltour, venant dans la classe où était le petit Jaurès, l'instituteur le pousse en avant, si M. Deltour l'interroge, il répond très brillamment, et ce monsieur Deltour est frappé de l'intelligence, de la rapidité d'esprit de ce petit garçon, et il dit, qu'est-ce que tu veux faire? À ce moment-là, c'est Jean Jaurès, 12 ans, répond, je vais recevoir les postes. Alors, l'inspecteur sourit un peu, et dit, mais mon garçon, peut-être que tu pourrais prendre à autre chose, il faudrait que tu fasses l'enseignement secondaire. À ce moment-là, vous savez, l'enseignement secondaire était payé en France, c'était cher, alors je pense que le petit a dit, il faudrait s'entendre avec papa. Si bien que le lendemain, le soir, je ne sais pas, M. Deltour, inspecteur, s'entretient avec M. Jaurès, qui devait être intimidé. Il lui dit, vous avez un garçon un peu brillant qui devrait faire des études, et probablement que M. Jaurès s'écarte les bras en disant, oui, j'ai pas les moyens. Et l'inspecteur dit, mais nous sommes là précisément pour donner des bourses aux enfants valables, comme on dit aujourd'hui. Alors c'est à cause de ça que ce petit qui était destiné à être un petit fonctionnaire, va faire autre chose, va préparer son baccalauréat, et au-delà du baccalauréat, préparer l'entrée à l'école normale supérieure, il est très brillant, et dans le premier de sa promotion, il avait 19 ans à l'école normale supérieure, après avoir fait des études à collège Sainte-Barre, après le Paris. Sainte-Barre, attention, j'ai cru longtemps que c'est un collège religieux, non pas du tout, c'est un collège purement laïque, mais il savait Sainte-Barre. Et lorsqu'il est, je voudrais peut-être premier de sa promotion, il y a là, dans la même promotion, des gens en prison, il y a un futur cardinal assez mystique, c'est le Baudrillard, et il y a un futur philosophe assez connu, c'est le Bergson. Alors, quand on entre à l'école normale, il faut choisir sa destination, on peut faire soit du français, soit de l'allemand, soit d'autre chose, et lui, le petit Jaurès a une idée, il voudrait faire de la philosophie. Alors, vu que l'année qui va être candidat plus tard, au bout de 3 ans, à la destination de philosophie, les paris sont ouverts par les normaliens, savoir qui elle va être en premier à la création, ou bien c'est Jaurès, qui semble avoir du talent, ou bien c'est autre, qui serait le Bergson, qui semble assez doué pour la philosophie. La fille a oublié que quand il passe à la création, c'est lui, Jaurès, ni Bergson, qui sera traduit à la création de philo, mais on en est les baseilles, les baseilles. Sans on n'en voit plus jamais parler, mais je veux quelquefois de ses discernements, il faut dire que le baseille va mourir rapidement, il n'aura peut-être pas le temps de sa mission. Donc voilà, Jaurès, qui est agrégé de philo, il a 21 ans. Il a une chance, aujourd'hui inadmissible, à savoir que les normaliens ont cet âge très reculé, ne faisaient pas sur les militaires. Il y avait deux privilégiés en France, les fournirons d'une part, c'est le fournirons, ils n'étaient pas restés les élèves de la supérieure qui étaient dispensés de service militaire. Sinon, tout de suite, après avoir son intégration, on lui a demandé, comme il était tout de même 3 jours dans la base, on lui a demandé s'il avait une option, s'il désirait être nommé à quel ou tel endroit, ce qu'on fait pour les premiers, on dit, j'aimerais être nommé à Albi. Pourquoi Albi? Parce que c'est la ville la moins éloignée de la Seigneur de son père, c'était trop malade, donc il n'y a plus la richesse. Alors, en octobre 81, ici, en octobre 81, voilà, Jean Jaurès, qui est professeur de philosophie à Albi. En cet âge reculé, je ne sais pas aujourd'hui combien il y a d'élèves en philosophie à Albi, mais je vous ai considéré, il était bien. C'est-à-dire que c'était le professeur avec du temps, et déjà, ce jeune professeur avait son idée de thèse. Une thèse, c'est ce qu'il est fait à en enseignement supérieur, il a demandé à le concevoir la thèse, vous savez. Ou bien on peut la concevoir comme simple échelon, marche plus tranquille, quoi, pour entrer en cinéma supérieur, et je dois vous avouer, dans des mots, c'est comme ça que j'étais mortel, parce que je voulais arriver à ma cinéma supérieur. Je me fais une tête sur la Martine, parce que je suis ma collègue, ça me paraissait plus facile de parler sur la Martine, sur un autre sujet. Tandis que l'autre, je voudrais citer aussi, c'est des aspects, une idée précise. Il sait ce qu'il veut faire, il a une idée à soutenir. Et cette tête s'appellera de la réalité du monde sensible. Je vous explique pourquoi, d'ailleurs, je me mets une école qu'on appelle l'idéaliste. Aujourd'hui, le mot idéaliste a le mot vague comme spiritualiste. Mais sur ce moment-là, l'idéaliste était une méthode philosophique très précise. Qui nous met la réalité du monde sensible, la réalité de la terre, etc. En disant, tout ça, vous pouvez tricher cérébral. Ça, pour une part, ça venait de Berkeley, comme vous savez. Et lui, je reste avec le sentiment qu'on se trompait en disant que la matière n'avait pas d'existence réelle. Cette matière, du reste, il l'avait dit, je vous en parlerai tout à l'heure, pénétrer du spiritualité, afin de vous montrer que ça existait. Alors, le médecin devait faire cette thèse aussi, et on a une correspondance de lui en 84, un ami Charles Salomon, qui était son médecin juif, son meilleur ami, qu'il avait conservé une fois normale, et je peux vous dire, en parenthèse, il deviendra professeur de russe à la Sorbonne beaucoup plus tard. Et dans cette lettre, en 1984, en octobre 1984, il nous dit, si ma thèse marche bien, je pense qu'en 1885, donc au printemps de l'année prochaine, je pourrai entrer dans l'enseignement supérieur et soutenir ma thèse. La figurez-vous, ça ne sera pas parce ça se passe pas comme ça. Il a répondu ça en octobre 1992 seulement, il va soutenir sa thèse. Pourquoi? Qu'est-ce qui est interféré là? La politique. Ce n'est pas qu'il soit passionné de politique, mais il savait ce qu'il voulait, et surtout ce qu'il ne voulait pas. Hein. Nous sommes dans une période très reculée, nous sommes en 1985, où la République était encore incertaine, et la République, comme on dit, était au pouvoir depuis 1976. Si la République introduisait bien avec une définition, c'était l'anticléricalisme, qui semblait être nécessairement les seuls, mais qui ne suffisait pas à tout. Et lui, je restais le côté catholique, le catholique pratiquement, mais ça revient jusqu'à la 16e année environ. C'était séparé, comme beaucoup de gens à l'époque, du christianisme, en disant c'est un ensemble de légendes, ça ne tient pas, c'est rationnel. C'est celui, le fait qu'il ne s'agissait pas d'obligation morale dans lequel il était rebelle, simplement une obligation intellectuelle. Donc il y a un républicain, il est anticlérical, pas ennemi de l'Église, mais anticlérical, ce qui n'est pas la même chose. Je vois là que les élections sont annoncées pour l'année 85, et que la République semble être menacée, alors on vient de trouver les résultats qui préparaient la liste, à ce moment-là c'est un truc très anglais, pour les élections d'octobre 85, vient de trouver en disant que vous nous présenter. Et c'est très intéressant de savoir sa réponse, il n'a pas envie. Il voudrait faire une carrière libre de soeur, et il dit à Salomon, par exemple, qui nous en parlait, il dit, si j'ai pas mis en vie, parce que la politique c'est de l'accusation, moi je vous ai des éliminés, j'ai une telle affaire, je me suis auprès de lui, mais pourquoi ce nom de le trouver? Pourquoi est-ce que le républicain de cette région, il a le but que lui, je l'ai cherché? De raison. Premier, il était déjà chargé de cours à l'université de Toulouse. Et il a choisi un sujet de cours assez énorme, Dieu, tout ça, Dieu, il a été prévu sur Dieu. Alors il avait une certaine notoriété, il nous parlait bien, il avait des idées, c'était dit, ben il fera énormément de notre liste. Ça n'aurait pas suffi, ça ne s'appelait pas Jaurès, pourquoi donc? Et bien même Jaurès, c'était un nom connu dans la région, parce qu'il avait un grand oncle, un grand cousin, sur les chanteurs, l'amiral Jaurès, qui est, comme vous l'avez entendu, un marin, mais qui pendant le 70, 70, comme vous dites, avait demandé du service, alors qu'il n'y avait pas de problème maritime dans cette guerre franco-prussienne, mais avait demandé à servir dans l'armée. C'est un grand juré, c'était devenu général de brigade, il avait lutté avec Saint-Chanzine et avec Zivatu, il avait fait une très brillante retraite, paraît-il, ça s'est encouragé, c'est bien qu'il avait gardé, enfin, une certaine réputation, il avait envoyé comme député à l'Assemblée de Saint-Toulouse, puis les présidents sur la marine, c'est pour vous dire que le nom des jurés de la région de Toulouse était un nom connu politiquement et républicain. Alors, le républicain du mot, Jean Jurès, vous qui êtes président, vous êtes connu, vous êtes vraiment accepté. Il a bien torsillé, hein, et une de ses raisons est très frappante. La première raison, il dit, j'ai pas envie parce que je viens de vous dire, je suis un homme de cabinet de continuité, mais la deuxième est très frappante, elle commence à éclairer les vrais personnages. Dans une autre figure, il dit, à Salomon, il lui dit, c'est très grave d'être député parce qu'on est obligé quelquefois de trouver des animations sans pouvoir consulter ses mandataires. Moi, je voudrais, dit-il, avant de prendre la responsabilité de député, je voudrais savoir la réponse à donner à ces grandes questions. Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que l'esprit? D'où vient tout cela? Où va tout cela? Ça, c'est amusant de penser qu'un jeune un petit peu de dépliquant, et qu'il y a un dépliquant, il dit, je vais avoir un arrêté philosophique. Je ne connais pas ce qui se passe en Belgique, mais je peux vous dire que chez nous, les députés français qui pensent à la matière et l'esprit, je pense que beaucoup de l'intervention soignée. Ben, nous, au contraire, avec deux, nous voulons avoir une règle philosophique à des problèmes qui nous paraissent capitaux. Il va finir par céder, parce qu'il avait des bouquins, parce qu'on lui dit, ça veut dire, il a été menacé, ben, il donne chez nous, en ce truc, je le crois, et si j'ai raison qu'on les avait tous les 4 octobre 85, il était juste beaucoup en tête de lui, et il est le premier, le plus jeune, depuis le truc, en octobre 85. Les gens, la société, on nous dit, c'est vrai, il était député 85 à 89, mais c'est comme qu'il va devenir le chef du parti socialiste, et ça aurait bouclé à ce moment-là, un homme très conservateur, on donne quelques preuves. On vous dit par exemple, les socialistes à ce moment-là refusaient de voter ce que l'on appelait les fonds spéciaux du ministère de l'Intérieur. Tout le monde savait que les fonds spéciaux du ministère de l'Intérieur sont faits pour le contrôle des révolutionnaires. Alors on vous dit, il a voté des crédits du ministère de l'Intérieur parce que lui n'était pas du tout un homme de gauche. Deuxièmement, les républicains d'extrême gauche à ce moment-là voulaient retenir entre la France et le Vatican en disant que la France n'a aucune raison d'avoir un ambassadeur au Vatican. Eh bien, lui, Joël va voter pour le même son des crédits dans l'ambassade du Vatican. Alors, on lui dit, vous allez dire qu'il est conservateur. Attention. C'est la première fois que j'appelle votre attention sur un point très précis. Nous sommes dans la législature 85-89. Il y a un problème que j'ai parfaitement oublié aujourd'hui, mais c'est tout à ce moment la capitale. La République s'est trouvée menacée, vous voyez là, par un nommé Boulanger. Le général Boulanger. Général Boulanger était ministre de la Guerre. Il s'était créé une certaine réputation, parlait du général Revanche, au début il s'est donné un effet pour faire républicain et même de gauche, peu à peu on avait su qu'il avait des accointances avec la droite, et qu'il était suspect de faire parler ce qu'on appellerait aujourd'hui un putsch militaire pour renverser la République. Alors quelle que soit la réserve de Jean Jaurès à l'égard de ceux qui étaient les dirigeants, il valait au mieux pour lui l'avantage d'être des civils et de faire barrage à un gouvernement militaire qui lui semblait la dernière des choses. Alors c'est pour ça qu'il a soutenu un gouvernement qui lui faisait guerre, et je vous en ai la preuve, simplement pour préserver la République. La preuve, ben la voici. Je viens de vous dire, et c'est pas la même idée date qu'il s'est parlé, c'est le 4 octobre 85 qu'il est élu, le 8 avril 86, vous voyez, il n'a pas perdu de temps. Je vois là qu'il fait une première proposition de loi. Quelle proposition? Il demande l'établissement de retraites ouvrières. Je vous estime à quelle loi 30 ouvrières en France se sont établies en 1910, et c'est en 1846 que ce jeune député Jaurès demande les retraites ouvrières. Et donc, les considérants, quand on est dans un projet de loi, il faut dire les considérants, je propose ça à cause de ceci. Il y a une phrase extraordinaire que je connais à peine, que je dois vous dire. Si cette loi est votée, écrivez ce Jaurès de 27 ans, si cette loi est votée, ça sera le premier pas sur la voie de ce socialisme vers quoi tout nous achemine. Donc, ce jeune député, vous, conservateur, en 86, disait le socialisme vers quoi tout nous achemine. Qu'est-ce que c'est que le socialisme français en 85-86? Presque rien. Les élections 85, la totalité des voix socialistes n'atteignent pas 100 000, vous m'entendez, n'atteignent pas 100 000 pour toute la France. Et quand en 1904, il fera un recueil de ses premiers discours, il veut en changer dans les vies politiques, le socialisme fait de petites sectes agitées et fanfaronnes qui passaient leur temps à s'anathématiser les unes les autres. C'est vrai, il y avait les courants d'hiver, il y avait les guédistes, les alémaniques, les possibilistes, les bronchistes, et lui, le reste disait, ces socialistes qui ne s'attendent pas, qui ont un programme conçu, pour tout le monde les vraies questions. Les vraies questions de manifestation sur les questions économiques et sociales, qui sont encore les balbutiements, mais pour les vraies questions, et moi j'ai essayé de constituer une doctrine socialiste qui se tiendra debout. En 89, à la fin de la législature, ce n'est plus un second ni cet scrutin uninominal, et il est battu. Il est battu parce que, plus ou moins, il a une position trop à gauche. Et j'ai oublié de vous dire qu'au mois de mai 89, et les élections ont eu lieu, je crois, en septembre 89, au mois de mai 89, il a eu un nouveau discours sur les délégués ouvriers dans les mines. De quoi s'agissait-il? Ben, la sécurité des mineurs n'était jusqu'alors attribuée qu'à la surveillance du 89, et lui demandait que les ouvriers fussent introduits dans ces commissions de contrôle où leur mise est engagée. Et voilà, c'est battu parce que, plus ou moins, il est trop à gauche. Alors, on nous a raconté, entre les yeux, qu'il a été écrasé par le fait que lui, qui commençait à faire une vie politique brillante, est séparé, exclu du Parlement de 89 à 93. 93. C'est pas vrai. Il n'avait pas fini sa thèse. Et je lui ai dit n'importe ce qu'il n'a pas fait à sa thèse. Si bien que, dès le mois de janvier, c'est une idée, hein, janvier 89, il avait écrit au rectorat de Toulouse en disant « Quel que soit le résultat des élections, je demande à reprendre ma place de professeur, de mon chargé de cours, qui est soutenir sa thèse, de professeur de l'Université de Toulouse. » Si bien que, s'il avait été élu, un vrai problème sur son moral serait posé pour lui. Et lui, c'est difficile de renoncer à la confiance qu'on lui fait. D'autre part, s'il est élu, il ne pourra pas faire sa thèse. Alors je crois que c'est au contraire une libération pour lui d'avoir été battu, parce que ce problème moral ne se posait pas. Et de 89 à 93, il va être en effet civil, enfin je veux dire, il sera plus dans la vie politique, sans ses parts radieuses, il ne reste pas. En février 82, il va soutenir sa thèse et sa thèse complémentaire. À ce moment-là, il y a une thèse complémentaire en latin, qui était, pour lui, il avait choisi les origines spirituelles du socialisme allemand, origines spirituelles du socialisme allemand, et il s'était si peu désintéressé de la politique qu'en 92, il avait accepté d'être membre du conseil municipal de Toulouse, à condition de s'occuper de ce qui l'intéressait, c'est-à-dire les problèmes scolaires. Nous voilà en 93 où il va revenir dans la vie politique à l'occasion d'une histoire, 92, une histoire que je vais vous raconter en deux minutes sur la fameuse grève de Carmaux. Carmaux qui est une ouvrière, qui est toujours aujourd'hui, mais on avait cette particularité, disparue par bonheur, que cette usine était pour ainsi dire possédée par un seul homme. Ce seul homme, c'était le marquis de Solages, qui était le propriétaire total de la mine, qui en même temps, était plutôt en même temps maire. Et puis voilà qu'aux élections municipales, hein, comprenez, les élections municipales, c'est les municipalités, quoi qu'on ait eu au mois de mai 92, c'est un ouvrier qui s'appelait Calvinac, qui est nommé maire. Aujourd'hui, ça ne paraît pas extraordinaire, ça nous a dit que c'est un maire des cités. Mais j'ai un endroit, pareil, avec ce parti solaire qui dirigeait tout, c'est un véritable scandale qu'un de ces ouvriers puisse être maire. À ce moment-là, les maires, depuis cité petite comme grande, n'avaient aucune indemnité. Parce qu'il fallait s'en amener pour être maire. Et Calvinac, le pauvre type, qui n'était qu'un ouvrier, qui vient que monsieur le marquis de Solages se dit, écoute, c'est très facile, hein, pour me débarrasser de ce bonheur, je vais le renvoyer, puisqu'il ne gagnera pas sa vie là, il sera obligé de quitter sa armée, je serai débarrassé de lui. Alors il le congédie. Calvinac, qui était un homme assez résolu, va le trouver, le patron, il lui dit, mais monsieur, je suis congédié, pourquoi? Est-ce que j'ai mal fait mon travail? Est-ce que vous avez professionnellement des reproches à me faire? Et Solages répond, une phrase qui sera répandue à travers le monde entier, évidemment la France, charbonnier et maître chez lui, je n'ai pas raison de vous aider. Ça veut dire, je vous chasse parce que j'ai envie de vous chasser. Alors, nos camarades, les mineurs, vous ne descendrez pas dans la ville, on ne va pas travailler. Tant que Calvinac ne sera pas maintenu, puisque nous, nous l'avons choisi. Alors, ça va être une grève extraordinaire, ça va être extraordinaire parce que d'habitude, les grèves aujourd'hui, tu vas faire la chose, soit fonctionnaire, soit employé, soit réunis, qui demande de l'argent. Suffisamment payé. Là, c'est pas une question d'argent. C'est des types qui disent, on n'accepte pas comme nos camarades soient envoyés pour autre chose que des raisons professionnelles. Alors on en parlera à travers toute la France, un garçon plus jeune comme Peggy, à ce moment-là, qui a 10 francs par mois d'argent de poche, va donner ses 10 francs par mois de poche pour soutenir les mineurs de Carmaux. On en parle de toutes parts, on s'adresse à Jaurès parce qu'il a déjà une certaine notoriété, il organise partout des meetings au profit des mineurs de Carmaux, c'est-à-dire à la fin des meetings, on fait une quête pour soutenir les mineurs, finalement, ils auront gagné cause. Et ce Calvin, ce Solage, Marquis de Solage, se dit, c'est peut-être maladroit, en cumulant à la fois le patron, le maire et les députés, il va abandonner son mandat de député pour essayer de mettre à sa place un homme de taille. Alors là, il y a une élection partielle. Les socialistes disent, oh, monsieur Jaurès, vous êtes des nôtres, présentez-vous. C'est pas un, nous sommes en janvier 93, et il est élu. Mais c'est à la fin de la législature, hein, puisque la législature va se terminer au mois de septembre 92. On a doute. On ne sait pas, mardi 92. Alors, 93. Alors, Marquis de Solages se dit, oh, si je n'ai pas caisse, c'est-à-dire si je fais les dépenses suffisantes, si je prépare bien mon terrain électoral, je renverrai ce jeune député, ce parachuté chez nous, et qui n'est qu'un petit professeur. Alors voilà les élections, oui, je crois que c'est au mois d'août, donc 93. Ce sera les élections du juillet, de 93 à 98, quoi, et je reste, et de nouveau, maintenu, le voilà qui est député de Carmaux, ce ne sera pas pour quelques mois, mais pour toute la législature. On peut dire qu'à partir de 93 et de la rentrée était en novembre, la rentrée parlementaire, le nom de Jaurès va devenir un nom national. Jusqu'à présent, on parlait très peu de lui, mais à partir de la fin de 93, il va le faire. Pourquoi? Le jour où la Chambre se réunit, c'est Dupuis qui est le président du Conseil, et il va faire une sorte de déclaration ministérielle. Vous savez ce que c'est qu'une déclaration ministérielle? Lorsqu'un ministère prend le pouvoir, il explique son programme, et d'habitude, les déclarations ministérielles sont bien balancées, une partie négative et une partie positive. La partie négative, nous ne voulons pas cela, la partie positive, nous voulons ceci. La déclaration ministérielle de Dupuis, elle est aussi particulière, elle est sincèrement négative. Je pense que vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a un instant sur le petit nombre de voix socialistes en 85, pas même 100 000 à travers toute la France. Mais voilà qu'en 1993, 600 000, vous entendez, 600 000 voix socialistes et 51 députés socialistes. Qui vient que M. Dupuis, président du Conseil, avait dit, nous sommes menacés de subversion, une espèce de sable du fond, enfin, qui est terrible, qui est extrêmement dangereuse. Nous sommes le ministère de la conservation sociale, comme disait autrefois Guizot, le ministère de la borne, ça peut empêcher de passer les révolutionnaires, et nous sommes là pour maintenir l'ordre établi. Je ne sais pas si le reste avait d'avance décidé de prendre la parole, et il va la prendre, ce jour-là, le jour de la rentrée. Il va demander la parole. Il va s'adresser à ce ministre qui a dit au fond, c'est un peu sur la faute des presseurs qui ont mal surveillé, s'ils avaient fait mieux leur devoir, ils n'auraient pas eu cette agitation sociale. Et Jaurès va dire d'une voix calme, quand il avait des choses très graves à dire, il n'employait pas d'éloquence violente. Je veux dire simplement, je crois, monsieur le président du Conseil, que vous êtes trompé en croyant que les élections sont le fait de quelques meneurs. Vous êtes trompé de genre et de nombre. Il ne s'agit pas de quelques meneurs, il s'agit d'une meneuse, la ministre de la République. Parce que si vous croyez que le faible souffle de quelques poitrines humaines est capable de produire ce raz-de-marée, vous vous trompez. En réalité, c'est la République. Quand on déplie le mot de République, toute idée socialiste, toute idée généreuse, toute idée humaine et de justice y est répandue. Alors, puisque vous, qui êtes président du Conseil, vous ne voulez pas faire la politique républicaine, et bien c'est nous, socialistes, qui allons la faire à votre place, et vous serez obligés de vous battre contre nous avec des salons dans les yeux. La première fois, c'est risquer une image, on en parlera beaucoup, toute la presse va reproduire ça. Je sais bien qu'un journal de droite, il restera longtemps, qui s'appelle l'Écho de Paris, il dit une voix bavillarde, un jeune député a essayé de faire du bon, sa voix n'était pas bavillarde, c'est une voix de poitrine, et puis ce n'était pas des choses vaines qu'ils disaient, parce qu'il y avait un retentissement considérable. Alors nous, à la clé, depuis 93 jusqu'à sa mort, ça c'est un incident entre 98 et 202 où il aura perdu son siège, le voilà qui va être le chef du parti, du nouveau parti socialiste français. Je voudrais attirer votre attention sur deux moments de cette première lutte électorale de Jaurès, lutte politique. C'est l'histoire d'abord de la Corréfus, et ensuite c'est l'histoire de la politique de M. Combes. Ça ne veut dire rien, mais je vais vous expliquer. La Corréfus a éclaté en 97, et un certain nombre de socialistes, dont Jules Gued, disaient ça ne concerne pas la Corréfus. De quoi j'ai dit, il y a un officier qui est accusé de complicité, ou plus exactement, qui est accusé d'espionnage, en fait de trahison. Nous, les socialistes, on s'intéresse bien aux officiers. En plus, c'est vrai que c'est un homme très riche, il a épuisé la fille d'un diamantaire, ça ne nous concerne pas. Et j'aurais dit le contraire, mais voyons, en tout cas, ça je dis, un innocent, qui est condamné, quoi, tu as envoyé au bas, nous savons qu'il est innocent. Et bien, précisément, parce qu'il n'est pas fini, parce qu'il est un bourgeois, parce qu'il est un officier, on doit le défendre, parce que nous sommes ensuite infiniment qu'il est armé, pour défendre les pauvres gens, pour défendre les parlementaires, puisque nous savons défendre la liberté ou la justice, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas fini. Il finira par l'emporter, le Parti Socialiste décidera, et lui, il reste dit, tiens, sa favoritiste très passionnelle va peut-être m'aider à constituer l'unité du Parti Socialiste, qui jusqu'alors, il vivait en divers groupes. Et il lance une idée pour le mois de décembre 1999, l'idée d'une d'état généraux, pour les espèces d'état généraux du socialisme, ce sera le réunion de connaissance d'état, manège Jacques, entre le 3 et le 9 décembre 1999, ça va être le jour à ce compte pour l'unité du parti. Malheureusement, un petit drame intérieur va se produire. Il y a un socialiste très important, plus connu que lui, qui s'appelait Mitterrand, et qui a laissé à 1996 à Saint-Mandé un discours révolutionnaire. Mitterrand va entrer dans le gouvernement. C'est un gouvernement centre-gauche, c'est Valdecrousseau, qui n'est même pas un radical, c'est un homme du centre-gauche. Et Mitterrand est entré dans le groupement gouvernemental sans en avoir parlé à ses amis socialistes. Jaurès, qui est un brave homme, et qui n'affiche pas tout de suite quelqu'un d'arriviste, il se dit peut-être que Mitterrand va faire ça pour nous aider, mais d'autres, comme je le dis, disent qu'un arriviste, et c'est Jaurès qui avait raison, puisque vous savez peut-être le destin de Mitterrand, qui va quitter le Parti Socialiste, qui va devenir un homme du centre, même un homme de droite, et qui terminera en 1924 comme président de la République de droite, poussé par le Bloc National. Alors, ce fameux congrès Jacques, dont Jaurès croyait que ce congrès de l'Union Socialiste, ce congrès tourne entièrement autour de la question Mitterrand. Il y a les socialistes qui sont pour, les socialistes qui sont contre, si bien qu'on n'arrive pas à l'unité qu'il avait espérée. Néanmoins, cette unité est tout de même en marche, puisqu'au lieu d'une sorte ou une autre petit organisme rivaux du Parti Socialiste, il n'y en a plus que deux. Or, c'est ridicule, il y a le Parti Socialiste français et le Parti Socialiste de France, qui sont avec les mêmes programmes et qui simplement se séparent sur la question de l'Iran. Il n'a pas gagné, mais il a commencé à en parler. Deuxième problème est celui de M. Combes. Évidemment, en Belgique, et aujourd'hui même en France, on ne rappelle plus beaucoup ce qui s'est passé en 1902 avec Combes. Combes est le président du Conseil qui a succédé à Valdecrousseau, qui était en pouvoir de 1999 à 1902, commission du 2 janvier, j'aurai été de nouveau député, et le grand programme, le premier programme de M. Cohn sera l'anticléricalisme. Je pourrais définir le clericalisme, j'ai du temps, mais j'ai ma définition maintenant. Le clericalisme, c'est l'utilisation du spirituel à des fins temporelles, la plupart du temps inavouables. Le cas de Jésus-Christ, Baptême, je vous en ai une preuve. En 1849-50, lorsque les bourgeois français, les précédents français, inquiètent la révolution de 48, de février 48, où pour la première fois le prolétariat a été défendu en armes dans les rues de Paris, on avait procédé au mois de juin à ce qu'on appelle les journées de juin, c'est-à-dire qu'on avait tiré au canon sur les maisons ouvrières, on avait tué environ 60 000, qui bien sûr le précédent était rassuré. Il disait, ben, l'ouvrier maintenant, on lui a fait partie de bout de la revendication. Mais, disait-il, grâce à les intelligents, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est une loi d'éducation. On va donc faire, avec un certain monsieur de Salle, une loi d'éducation qui sera entièrement cléricale. Je veux dire que d'une part, le monopole universitaire sera aboli. Monopole universitaire, monopole universitaire, c'est vrai. Il y aura désormais des écoles libres, des écoles congrégalistes, les congrégalistes pourront ouvrir leur école, cela. Mais, l'enseignement d'autre part qui sera maintenu sera lui aussi sous le contrôle de l'Église, c'est-à-dire que dans le cas de circonscription universitaire, on appelle ça des académies en France, l'évêque sera le président de cette réunion universitaire et aura le droit d'invocation sur les professeurs et sur les universitaires. Donc, soit. Et qu'est-ce qu'ils voulaient donc ces gens? Eh bien, la plupart étaient des incroyants qui disaient, par bonheur, j'ai encore en France des abonnés qui croient se raconter au curé, on va demander au curé de faire leur premier devoir, qui est d'apprendre un peu dans la résignation, j'appelle ça du curialisme. Parce que Victor Hugo, qui est le contraire de mon imbécile, dira, c'est curieux qu'en ce moment, j'ai un perso autour de moi, la multiplication de ce que j'appelle les athées de la nuance catholique. Et effectivement, un homme comme M. Thiers, qui est un athée, un homme comme M. Dugino, qui est un agnostique, dit bravo, bravo, c'est que la famille, c'est parfait, parce que maintenant, on aura des générations d'imbéciles domestiquées par l'Église. Ça, c'est du clericalisme. Et là, je reste à souvenir compte, parce que comme M. Thiers, il va faire de la persécution, c'est vrai. La persécution contre les amis, donc la plupart étaient, comme l'avait dit Javel de Grosso, des moines d'affaires, des moines leaders. Je veux bien que M. Comte était trop loin, puisqu'il a utilisé sa persécution des gens qui n'étaient pas de politique, qui étaient les contre-platous. Les enfants, à la base, il y avait une protestation normale, et à laquelle je reste permanemment soucié, contre gens qui sont politiques dans un certain sens, de l'église par la vie politique française. En 1905, je reste arrêté tout de même, alors c'est quelque chose d'important, l'unité, ça y est, l'unité du Parti Socialiste est réalisée. Ça devient SSIO, c'est-à-dire Section Française Internationale Ouvrière. Il aura maintenant devant lui, la plupart du temps, des gens qui ont trahi le Parti Socialiste pour devenir radical au centre-gauche, comme Mitterrand, dont je vais parler, comme Brigand ou comme Viviani. Nous n'avons évidemment pas le temps de suivre Jaurès à travers toute sa action politique, mais je voudrais concentrer mon exposé sur trois points. L'action ouvrière de Jaurès, son action d'autodat anticolonialiste et son action pour la paix. Rapidement, et chaque fois, je vais apporter simplement une citation précise. L'action sociale de Jaurès, et bien vous avez vu qu'il avait demandé des divisions de la colonisation sur la jeunesse ouvrière, et c'est en 1910, profitant de ses brillants, va arriver aux élections, et pour obtenir des voix de plus, il va faire les premières retraites ouvrières françaises, du reste, mini, mais pas c'est ridicule, les enfants. Les retraites ouvrières, c'est tout de même lui, Jaurès, qu'il avait demandé depuis 86, il irait les obtenir. Les choses se passaient qu'en 1912, un certain jour, il est monté à la chambre, il est monté à la tribune avec un papier. Il avait dit d'arriver sans papier. Et il a donné lecture de la mortalité infantile, je sais, la mortalité infantile, ce qui veut dire la mortalité des enfants entre un jour et un an dans les divers arrondissements de Paris. Les radicaux, avec lesquels il est toujours en combat, disent, nous n'acceptons pas les socialistes, parce que les socialistes, c'est les gens de haine qui parlent de lutte des classes. Nous, radicaux, nous ne connaissons pas les classes, nous connaissons les Français à part entière. Alors je reste tranquillement à lire les chiffres de la mortalité infantile dans les divers arrondissements de Paris. Naturellement, j'ai départé les enfants, j'en ai retenu trois, qui sont particulièrement explicites. Dans le 8e arrondissement, le 8e arrondissement, vous voyez peut-être, c'est l'arrondissement de l'Étoile, c'est l'arrondissement uniquement bourgeois, il y a une population de 100 000 habitants, et la moyenne des décès de petits enfants entre 1900 et 1906, la moyenne des décès de petits enfants était de 33. Vous voyez ça, 100 000 habitants, 33. Nous passons au 4e arrondissement, c'est l'arrondissement mixte, où à la fin, il y a du prolétariat et des bourgeois. Déjà, une crue assez sensible du nombre des enfants morts, puisque c'est 154 enfants morts en moyenne. Nous passons au 20e arrondissement. Le 20e arrondissement est suburbain et est entièrement prolétarien. Là, la population est double. C'est 176 000, pas tout à fait le double, 176 000. Savez-vous quelle est la moyenne de décès des petits-enfants? C'est 544. Là, vous voyez, 100 000 habitants, 33 lorsqu'il s'agit d'un endroit bourgeois. Un endroit bien bourgeois, 100 000 habitants aussi 154, et un autre à 800 prolétariens 344. Alors je reste sans élever la voix à Dio, comme Dio, à Nico. Vous ne connaissez pas les classes, et bien la mort, elle, connaît les cas, vous l'entendez, puisque pour un enfant dans le berceau des riches, elle en prend 10 dans le berceau des pauvres. C'est tout ce que je veux dire, parce que je trouve que c'est évidemment explicite, ça c'est l'effort social. L'effort maintenant anticolonialiste. Pendant presque toute la législature de Jaurès, ça sera le problème marocain pour la France. La France a décidé de faire la conquête du Maroc, et nous allons frôler la guerre à cause de ça avec l'Allemagne, comme vous savez. Et Jaurès, c'est un homme qui va dire, mais enfin, voyons, réfléchissons un peu à ce que c'est que la conquête coloniale. On nous dit, c'est la grandeur de la France, d'une part, et c'est l'enrichissement de la France. Ils sont les chiffres les plus incontestables, il dit, mais non. Il ne s'agit pas d'enrichissement pour la nation. Voyons, comment est-ce qu'on fait une conquête coloniale? Alors, on envoie les soldats. Les soldats, c'est-à-dire le sang des Français. Dès qu'on a conquis un pays, on fait quelques appropriations, on creuse des routes, on établit des ports. On bénéficie de qui? On bénéficie de la nation? Ah non, on n'en croyait rien. On bénéficie d'un certain nombre de compagnies. Parce que c'est comme les colonies, ça coûte à la collectivité et ça rapporte à les compagnies privées. Et bien sûr, vous que c'est lorsque la France aura perdu son empire colonial, un homme comme Raymond Berthier vers les années 1850-55, il dira, après tout, réjouissons-nous de ne plus avoir d'empire colonial parce que ça nous coûtait très cher. Mais c'était exactement ce qu'il disait Jaurès au moment de la terre coloniale. Et alors là, c'est une citation, même deux. La première, je la tire d'un article qu'il avait publié le 29 janvier 1898 dans le journal du Parti, qu'il appelait à ce moment-là la Petite République. En 1904 seulement qu'il existera le quotidien du Parti, c'est de l'humanité, le naissant du catalyse. Et son article de thèse s'appelle Conscience, au pluriel, conscience faussée par l'habitude de l'oppression. Et il a raconté un souvenir d'enfance. Il dit, quand j'étais encore catholique, quand je suivais les cours du catéchisme, au lycée de Castres, il y avait un aumônier qu'on aimait bien, qui avait été autrefois un aumônier militaire. Cet homme avait vécu en Algérie, et il racontait sans se rendre compte du tout de ce qu'il disait, avec une grande simplicité, disait cet aumônier. C'était un peu une trocade, vous savez, moi, j'avais, disait l'aumônier, j'étais assimilé à un grade de capitaine, on m'avait donné une villa de service, qui avait été prise à un Algérien, un Morico. Et j'avais pas d'arbre dans ma petite propriété. Heureusement, j'avais un voisin qui était lui un arabe, et qui avait, c'était peut-être un séminariste, qui avait des petits arbres. Alors racontez ce témoignage tranquillement. J'avais demandé à mon ordonnance de franchir le mur pendant que le petit est sorti, il avait déplanté deux arbres, et il les avait plantés chez moi. Et puis comme l'arabe est revenu un peu trop tôt, mon ordonnance lui avait dit, surtout ne te mets pas à cafarder, raconte pas ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas capable de te faire la peau. Et disait Jaurès, il écoutait ça avec quelques stupeurs, vous êtes les enfants, ma foi, ça me paraissait surprenant, parce que si ton ami ne s'en rendait pas compte du tout de ce qu'il disait, donc c'était merveilleux d'habiter à ce moment-là l'Algérie. Alors Jaurès, dans cet article, il dit, ça j'appelle sa conscience poussée par l'habitude de l'oppression, on ne nous oubliera plus certainement en Algérie, vous savez, d'affreuses moissons lèveront là un jour. Il dit ça à la 18, et vous savez ce qui va se produire en Algérie à partir de 1954. Deuxième set encore, la France avait organisé internationalement, du reste, une opération en 1900 contre la Chine. Il y avait des révolutionnaires qu'on appelait les boxers, dont on nous avait dit que c'était des horribles et qu'ils avaient mal prédit, c'est vrai, des missionnaires protestants et des missionnaires catholiques. Alors là, ce qu'on a appris à moi, ce qui s'élève, on nous avait dit, vous savez, le vieux sang chrétien de l'Occident m'a fait un tour, alors on a envoyé une expédition militaire pour obliger ces boxers à se tenir mieux. Jaurès avait lu deux comptes rendus de Pierre Loti dans Figaro. Et en Figaro de octobre 1908, sur le qu'il disait, j'ai eu la chance d'entrer à Pékin après une razzia de nos oises. Les rues étaient couvertes de membres coupés et de têtes coupées. Et là, je m'aperçois sortant d'un seau deux jambes. Je m'aperçois que c'est la partie inférieure d'une vieille femme qui était coupée en deux. Et sauf que ce monsieur, Pierre Leclerc, a conduit ça avec la même tranquillité que l'aumônier. Et je reste continué à dire simplement, ben, nous oubliera plus non plus, vous savez, en Orient. Il viendra peut-être le temps, mais c'est tout l'Orient qui se précipitera sur l'Occident. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, il y a en effet un problème juridique pays. Et maintenant, la question qui me tient très à cœur, la question de la défense nationale. Peut-être vous rappelez-vous qu'au début de cet entretien, je vous ai rappelé la phrase épouvantable de Maurras, disant que c'était une fusille monde entretenue par l'Allemagne. Et en 1898, lorsqu'il s'est présenté, il a été battu aux élections contre Solage. Solage avait fait une affiche que j'ai vue, qui est conservée aujourd'hui au musée Jaurès à Castres. Il y avait ceci. Ne votez pas pour M. Jaurès, français, ne votez pas pour M. Jaurès, qui soutient le traître raciste, afin de, je vous garantis le mot, afin de mieux préparer l'invasion étrangère. C'est ce qui signifiait que Jaurès est un homme qui déteste son pays, puisqu'il prépare une invasion étrangère contre la France. c'était proprement monstrueux. Et comme il jurait cependant un marxiste, s'est opposé à Marx avec sa fameuse phrase du manifeste communiste disant « les prolétaires n'ont pas de patron ». Et Jaurès avait dit, c'est une boutade regrettable chez Marx, car les prolétaires ont une patrie comme les autres. En particulier, les prolétaires français ont une double patrie, ils étaient, premièrement, il y a le sol national à défendre si on veut l'envahir, et deuxièmement, il se trouve que sur ce sol national a germé la République, c'est-à-dire l'espérance humaine. Parce que c'est en cas de guerre, nous, les socialistes, sont les premiers à défendre le sol national. Voilà la vérité. Mais d'autre part, il est parfaitement vrai que Jaurès luttait contre deux choses. Il luttait contre l'esprit de revanche, et il luttait contre le dogmatisme. Esprit de revanche. Je suis né en 1803. Et je me rappelle très bien que j'ai été élevé avant 1814 dans l'idée de la revanche. On disait la France a été battue en 70, s'il y a une prochaine guerre, nous serons victorieux. J'aurais dit, mais je souhaite en effet que s'il y a une prochaine guerre, nous serions victorieux. Mais alors qu'on demande la revanche, on rate qu'un. Ce sont les Allemands qui voudront venger contre nous. Nous sommes donc pris dans un cycle infernal. Ce n'est pas par ce moyen-là qu'il faut réduire le contentieux franco-allemand. Et il y a un contentieux. Qu'est quoi? La Sorelle. Si on vient plébiscite dans la Lorraine, il est évident que la Lorraine ne souhaiterait pas être allemand. Donc il y a un problème. Mais il ne faut pas le régler, il ne faut pas le résoudre par la guerre, parce que comme je vous l'ai dit, ça sera l'enseignement interminable des revanches dont c'était l'hélicisme. À partir de 1912, et dans une intention très précise, à cause de Poincaré, président du Conseil, puis bientôt président de la République, et qui lui prépare la guerre, d'accord avec la Russie, les journaux sont arrosés par le ministère, en particulier celui-ci, Mitterrand, qui pourrait être ministre de la guerre, pour préparer les gens à l'idée de la guerre. J'ai retenu quelques citations que je vais vous dire. Dans le coup de Paris, M. Paul Bourget, qui était déjà de l'Académie française, dit « La guerre est sainte et régénératrice ». En outre, il faisait également dans les coups de Paris, qui s'appelait Abel Bonnard, qui deviendra plus tard ministre de l'Éducation nationale chez M. Pétain, il dirait « La guerre, il faut savoir l'embrasser dans toute sa sauvage poésie ». C'était facile pour quelqu'un qui n'était pas mobilisable. Et puis un autre qui s'appelait M. Ignatius et qui signait Agathon écrivait dans l'enquête sur la jeunesse française la guerre en exclamation. Un mot tout jeune, un mot tout neuf, pareil de l'éternel prestige et l'instinct belliqueux à ramener au cœur des Français. Total 1,5 million morts, plus que vous savez comme il est, et par bonheur et Dieu merci, M. Barret, M. Ignatius ne sera pas de ses victimes. Là, je leur disais, mais c'est inqualifiable. On ne peut pas célébrer la guerre pour elle-même. C'est-à-dire, il faut la faire, mais il faut la considérer comme un mal terrible à la rivalité. Il va passer son temps à lutter avec une espèce de force désespérée, quoi, parce que c'est une guerre qui vient. Savez-vous que c'est au mois de novembre, 1812, à Bâle, il va parler dans la cathédrale de Bâle, c'est un protestant. Et les protestants ont accepté de lui laisser la chaise. Il y avait un grand congrès de leur paix, 30 000 personnes environ, il y a les cloches de Bâle qui sonnaient, vous savez, Aragon en a parlé, les cloches se sont tues pendant qu'il a parlé dans la cathédrale, et il avait dit surtout pas la guerre, cette guerre est déjà allumée dans les Balkans, et il faut essayer de l'empêcher, puis les cloches se sont remises à sonner lorsqu'il avait terminé, c'était des sonneries qui étaient déjà, pour ainsi dire, un glas, puis voilà qu'au mois de 7 juillet 1914, président de la Juive Poincaré demande des crédits pour aller s'entendre avec la Russie, Jaurès interpelle et dit, je vais s'entendre avec la Russie, pourquoi? Nous sommes la représentation nationale, on veut savoir ce que va dire le président Poincaré, on lui répondra à secret diplomatique. Le 14 juillet 1914, la guerre s'approche, on réunit un congrès spécial du Parti Socialiste, où je reste dit, il faut faire quelque chose, il faut réunir l'international socialiste, qui va effectivement se réunir en Belgique, vous savez, à Bruxelles même, le 28 juillet. Et là, les socialistes allemands qui ne tiendront pas parole. Les socialistes allemands vont dire, oui, en cas de guerre, nous allons essayer de protéger en effet la paix. C'était une idée qu'il avait développée, je reste dans son armée nouvelle, qu'il avait publié en 1910 ou 1911, où il disait qu'on allait détruire l'armée nouvelle. Où il disait, la préoccupation, c'est de porter au maximum les chances de la paix, et de porter au maximum nos chances de vaincre, si jamais nous sommes attaqués. Porter au maximum les chances de la paix, qui était une idée peut-être utopiste, dans laquelle il disait, il a encore un moyen d'arrêter la guerre, même s'il éclate, même si les premiers coups de canon sont tirés. C'est par une entente, une entente soudaine, une entente sérieuse, entre socialistes français et socialistes allemands, et si le prolétariat français, comme le prolétariat allemand, décide de ne plus faire marcher les trains, de ne plus faire marcher les usines de guerre, la guerre s'arrêtera d'elle-même. Et là, vous le savez, les socialistes français et les socialistes allemands, croyant les uns et les autres que leur pari, c'est leur pays, est attaqué, vont voter massivement les crédits de guerre. Et il faut savoir que Jaurès avait dit d'autre part, et je veux porter au maximum les chances de vaincre si jamais nous sommes attaqués, et il disait, Et je partais à 3 ans de service militaire français. Mais à quoi ça servira? Et dans les Catalans, c'est des équilibres numériques énormes entre la France et l'Allemagne. À ce moment-là, la France avait 37 millions d'habitants, l'Allemagne avait 64 millions d'habitants. Par conséquent, ce n'est pas en augmentant simplement d'une année le service militaire, les Allemands n'ont qu'à augmenter à leur tour d'un an pour Reichstag leur service militaire, le déséquilibre restera toujours. Voilà ce que je demande, voilà ce que je propose, dis-je, premièrement. Il faut protéger notre frontière du Nord comme protéger déjà la frontière de l'Est. Il faut faire des fortifications à partir de Sedan jusqu'à Dunkerque. Ben, vous savez peut-être que ça ne sera pas fait, on ne pouvait pas en 1914, ça ne sera pas fait non plus en 1940. Hein. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il faut faire, disait-il? Il faut essayer de grouper l'essentiel de nos forces un peu au nord-est de Paris, ça sera la marque, comme vous savez. Les Allemands avanceront vers nous. Il y aura des divisions sacrifiées qui auront tenté de retarder sa montée allemande. Mais quand les Allemands, fatigués loin de leur base, se trouveront en face de nos effectifs les plus solides, à ce moment-là, nous prendrons l'offensive et nos forces pourront peut-être les refuser. Savez-vous que dans cette armée nouvelle, j'aurais fait désespérément tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce que nous connaîtrons, nous Français, et vous Belges, avec le désastre de Charleroi, et qu'il avait pour ainsi dire prévu la localisation même de ce que sera la bataille de la Marne. Là, vous savez ce qui va se passer. Il va être assassiné par un homme humain qui dira « J'ai assassiné Jaurès parce que je savais que c'était un traître. » On lui demandera « Mais enfin, pouvez-vous apporter des preuves que Jaurès est un traître ?» Il dit « Non, mais je ne l'ai pas lu, parce que je ne voudrais pas dire Jaurès, mais je sais bien que c'est un traître. » Vous savez sans doute que Villain sera acquitté, ne savez peut-être pas que c'est Mme Jaurès qui va être chargée de payer les frais du procès. Et bien lorsqu'il est mort, lorsqu'il a été assassiné le 31 juillet, la comtesse de Martel, qui signait « JIP » en littérature, va écrire dans ses notes personnelles qui sont publiées plus tard, Jaurès abattu par bonheur, on dit que c'est grâce à M. Maurras, c'est bien juste M. Maurras. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de l'exposé, où je voudrais que nous approchions de la personne secrète, la personne profonde de cet homme. Lorsque Barrès apprend qu'il est assassiné, il note dans son petit carnet, alors je ne reverrai plus ce beau regard bleu. J'ai interrogé plusieurs personnes, j'ai connu Jaurès, j'ai eu la chance, si j'étais professeur un moment à Genève, d'avoir devant moi un jeune homme de Genève, qui était à la retraite depuis très longtemps, qui s'appelait Edgar Milio, qui avait été nommé en 1905 professeur de sociologie à Genève, et qui avait été un camarade de Jaurès dès le départ. Et je lui disais, oui, c'était vrai. Ce qui était très impressionnant, c'était la pureté, pas que couleur d'enfance de ce regard, un regard bleu pervenche. Un homme qui ne m'est pas, c'était Gustave Thierry, racontera lorsque Jaurès faisait attention à ce qu'on lui disait, il était toujours très attentif quand on lui parlait. Il penchait vers celui qui lui paraît, sa grosse tête, dans un mouvement d'oiseau confiant, disait-il. Tel homme rabé, je vous avais cité ces trois épouvantables, une gueule sur un tas de tripes, c'était faux parce qu'il n'avait pas un gros ventre, il avait une puissante poitrine, il n'avait pas de sang, Joseph. Il est vrai qu'il avait la tête directement posée sur les épaules, presque pas de coups, vous savez. Il va mourir à 55 ans, il était déjà tout blanc, sous blanc, à 55 ans. Et il avait une poignée de main dont on me parlait ce petit dernier, qui vous connaissait bien et qui aimait beaucoup, une poignée de main extrêmement solide, virile. Vous savez pas du tout cette poignée de main un peu molle d'un monsieur Renan ou de ses sandeurs qui vous prêtait deux doigts, une poignée de main qui vous écrasait pas, mais c'est une poignée de main solide. Il est vrai, pour s'habiller, pas bien. C'était la faute de Mme Jaurès qui ne faisait pas assez attention à la cousine de son mari, qui vient quand même de Chanel, qui vient d'être dans la Julie, qui était l'arbitre des élégances à la chambre, disait, les pantalons de M. Jaurès sont moins d'estime que ses discours. Sans savoir que c'était un homme d'une grande intelligence et qui frappait même un homme comme Barrès, qui disait, ce qui est assez amusant, qui disait ce socialiste est extrêmement cultivé, comme si un socialiste est immédiatement un homme vulgaire. Et M. Billot, qui m'avait beaucoup parlé de Jaurès, me disait, c'est assez frappant en effet de voir à quel point Jaurès était un homme qui ne riait pas beaucoup quand on faisait devant lui des plaisanteries ou une grossière, vous savez, des plaisanteries un peu obscènes. Il faisait pas la gueule, enfin, il ne parlait pas, mais jamais il mentionnait. C'est un homme qui avait une certaine dignité dans son vocabulaire, dans son comportement. À la chambre, j'ai été 2 ans secrétaire du député, j'ai vu, hein, on se tape sur le ventre, on se tutoie. Personne n'aurait eu l'idée de taper sur le ventre de Jaurès, ni de le soigner. Il était entouré d'un véritable respect. C'était un homme qui était capable de grande générosité, les problèmes d'argent n'existaient pas pour lui, Et il touchait très peu, d'abord la moitié de son traitement par ses prétendus députés. Passé à l'humanité, il donnait des articles de fait à l'humanité qui étaient extrêmement peu payés, et sa femme, dont je parlais tout à l'heure, lui envoyait un peu en disant, mais regarde tous nos camarades qu'on recevait autrefois quand tu étais jeune à la table, chez Mitterrand, chez Brigand. Ils sont tous devenus brillants, enfin, ils sont devenus remarquables, ils sont présents du conseil, ils vont être peut-être dans la vie. Puis toi, tu es toujours gros gens comme deux anciens députés. Parce que simplement, je restais quelqu'un qui disait, oui, je prendrai peut-être la responsabilité du pouvoir si nous avons la majorité, mais je ne veux pas entrer dans un gouvernement où je ne pourrai pas faire ce que je veux, Et ce mur d'argent sur lequel beaucoup de gens se passaient le front, il disait, je vois autour de moi des gens qui cherchent surtout à s'insérer dans ce mur d'argent, moi je ne le ferai jamais. Un homme de courage savait très bien qu'il était menacé dans sa vie. Par exemple, j'ai trouvé dans un texte de 98, du Marquis de Solages, un petit journal éphémère des élections, Marquis de Solages disait, nous avons entendu sur le foirage de Castres, un brave paysan, il était brave parce qu'il était de droite, qui disait, est-ce que nous n'aurons pas un homme courageux qui nous débarrassera de ce M. Jaurès par un bon coup de barre, par un bon coup de barre sur la nuque. Ce qui signifiait, nous espérons qu'il sera tué. Et peut-être que c'est un Belge, là, c'est Maurice de Valère, qui, en 1914, écrira, en cas de déclaration de guerre, je demande un caporal et quatre hommes pour administrer à M. Jaurès, à bout portant, le plomb qui lui manque dans la cervelle. Ben, le vœu que M. Maurice de Valère sera accompli, puisqu'en les faire sera du plomb dans la cervelle le 31 juillet. Moi, je vous parle un peu tout de même de sa puissance oratoire. Aujourd'hui encore, on cite Jaurès, même ceux qui politiquement ne l'aiment pas, en disant qu'il avait une grande puissance oratoire. J'ai là-dessus deux ou trois témoignages, il y en a un qui me frappe beaucoup, qui est Jules Renard. Jules Renard, l'homme du journal, vous savez, qui a été publié dans la Pléiade, qui dit que c'était très impressionnant d'entendre parler Jaurès. D'abord, il s'approchait terriblement de son public, hein, son pied dépassait même le bord de la fenêtre, même sur par qui tombe. Parce qu'il voulait s'adresser aux gens pour ainsi dire, un à un. Il nous regardait, disait Jules Renard, il nous regardait. Il ne cherchait pas de la police, mais lui-même n'avait pas envie qu'elle batte en sa mère, il voulait lui tirer dans les ciels. C'est même qu'il ne cherchait pas à se faire applaudir, il cherchait à convaincre. On savait, vous savez, on parle toujours d'un acteur, on le dit là, c'est présent ou pas. Lui, il n'était pas un acteur avec une présence totale, parce que ceux qui l'entendaient se rendaient bien compte que derrière chaque syllabe qu'il prononçait, il était engagé tout entier. Il y a un texte très peu connu qui est dans les mémoires, les souvenirs de Trotsky. Trotsky dit, Trotsky admirait beaucoup Jaurès, hein, alors que Lénine ne l'aimait pas. Trotsky dit, il mobilisait en nous des forces cachées. Il mobilisait en nous les forces cachées. Je trouve ça m'a aidé à comprendre un texte de Guénaud qui, je crois, dans ses souvenirs de 40 ans, disant la première fois, j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai entendu Jaurès, j'ai été au bord des larmes, disait Guénaud. Quand cet homme donnait forme à ce qui n'était en moi que conçu, et tout à coup, toutes les espérances, aucune qui était en nous, arrivaient en pleine lumière. Regardons maintenant si on peut plus avant chez cet homme. Il n'était pas narcissique, vous savez, il n'a jamais parlé de lui, il n'a pas laissé de mémoire. Mais il y a des textes de lui, il y a quelques petits textes de lui dans les lettres qui vont assez loin. Prenons par exemple l'histoire de la mort de son père. Il avait été nommé, vous vous rappelez peut-être, 10 octobre 81 à Albi, et dès mai 82, son père était mort. Son père était déjà très malade, et il a raconté à son ami Charles Salomon, un certain temps, 6 semaines plus tard, parce qu'il ne veut pas se mouvoir, il veut raconter ça tranquillement. Il dit, oui, mon père est mort, j'ai des professeurs à Albi, j'ai reçu un télégramme de maman qui disait, tu sais, papa très mal, viens. Quand je suis arrivé, son père avait une gangrène de la jambe, la maison était irrespirable, maman m'a dit, oh, je sais pas si tu vas te reconnaître. Alors j'ai approché de mon père, c'est lui qui parle, hein, qui dit ça à Salomon, il avait les yeux fermés, et je lui ai dit à mi-voix, papa, c'est Jeannot qui revient d'Albi. À ce moment-là, il dit, mon père a semblé content, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, je ne sais pas s'il m'a reconnu, il a secoué la tête de droite à gauche, comme s'il disait non, devant la mort. Puis il est mort. Alors je continue la lettre à Charles Salomon, il dit, c'est un samedi, c'est déjà chaud, c'est déjà chaud. Comme d'aller trouver les bières, quoi, pour l'enterrement, et ils ont dit que je ne voulais pas faire manger un samedi, alors c'est mon frère et moi, qui avons mis de nos mains dans une bière qu'on avait achetée exprès, ce corps qui coule. Et il dit encore cela, lorsque la mort n'attend pas pour faire son œuvre horrible, que la terre puisse tout cacher. Bon, bouleversement de la mort de son père. Deuxièmement, le voilà qui est amoureux en 85, d'une jeune fille qui s'appelle Marie-Paul Poix. Il l'aime bien, il voudrait l'épouser, mais il n'est pas seulement là, c'est un petit professeur, c'est pas sérieux. Le père de Marie-Paul Poix est, je crois, un notaire. Si bien que Jaurès va être écarté, parce qu'on a préféré un jeune avocat. Et toujours, dans son état, Salomon dit, ce qui est sûr, c'est que je ne chercherai plus le bonheur dans cette direction. Mais si. En 86, il va être de nouveau amoureux, une jeune fille qui s'appelle Louise Bois. En 86, il était du tout, alors c'est plus le petit professeur qu'il était. Monsieur Bois va essayer d'obtenir de lui d'être nommé sous-préfet, enfin il va épouser, c'est Louise Bois. Il l'aimera toujours. Beaucoup de gens ont cherché, dans la vie du reste, ils ne pouvaient pas trouver quelques maîtresses, ils ont dit aperçu qu'il n'y en avait pas. Je m'appelle encore un monsieur Louis Bartouz, qui est président du conseil, et que je connaissais parce qu'il était tous les deux des collectionneurs. Et qu'il me disait, c'est quand même curieux, ces Jaurès. Tous ses camarades, tous avaient des maîtresses. La plupart, venant qu'ils étaient absolument salés, comme M. Tardy et les autres. Eh bien, lui, pas du tout. On n'a jamais trouvé. Il n'a jamais eu de maîtresse. Il semble bien qu'il n'était exactement fidèle à sa femme. Figurez-vous qu'en 1911, il avait accepté d'aller faire une tournée de conférence en Amérique du Sud. il y en a quelques lettres qu'il a écrites à sa femme. La première lettre qu'il lui écrit, c'est très gentil, elle se termine simplement par « aimez-moi un peu, aimez-moi un peu ». Et il ajoute, figurez-vous, il ajoute à sa lettre 4 vers, des alexandrins, que je récitais à sa femme pour lui dire qu'il l'aime. Il y a 25 ans qu'il s'est marié avec Jeanne un peu, il écrit des vers à sa femme. Il est comme ça, c'est un homme qui croyait à l'importance de la fidélité. C'est un homme qui se méfiait de la sexualité comme si c'était un danger, un péril et un engloutissement. C'est aussi quelqu'un qui va peu à peu entrer dans un assombrissement. Alors qu'il a été autrefois plus gay, vous avez même souvent des plaisanteries. C'est un homme qui, à partir de 1912, il change. Pourquoi? Il avait une seule fille, Manu, qui était née en 1889. Il l'avait supplié de ne pas faire un mariage qu'il trouvait dangereux, par des raisons sociales, vous en doutez. Il s'était informé, il s'est aperçu que c'était dangereux. Elle part outre, elle se marie, bien entendu, rapidement, elle sera obligée de divorcer. Et il y aura un petit enfant qui va naître. Ce petit enfant, c'est-à-dire le petit-fils de Jaurès, était un hydrocéphale sourd et muet. Et ça, c'était un déchirement, ce Jaurès. Il n'en parlait jamais, ce petit-fils qui était un monstre. Jaurès s'assombrit, parce que d'autre part, il s'aperçoit que cette grande espérance qu'il a eue quand il avait 20 ans, 25 ans, 25 ans, quand il est parti sur ses lits encore plus jeune et dans une véritable allégresse, il disait « Tout était jeune, tout était pur, tout était intact, et maintenant, je suis à 1912 et 1913. Il y a déjà 70 députés socialistes, mais je ne retrouve plus ce qui était le début, je ne trouve plus cette jeunesse, cette propreté. Je vois beaucoup de gens qui considèrent le Parti Socialiste comme un marchepied, comme un tremplin pour faire une action politique. » En 1913, il y a une photographie du reste que je vous demande si vous avez l'occasion de voir une photographie du reste. Regardez cette photo, elle est très célèbre. C'est au mur des Fédérés. Vous savez peut-être que vous finissez le Père Lachaise à Paris, là encore aujourd'hui, ce mur devant lequel on dit, ce n'est pas tout à fait vrai, que les derniers combattants de la commune se sont fait tuer. Alors traditionnellement, le Parti Socialiste, et je crois encore qu'aujourd'hui, l'extrême gauche, le dernier dimanche de neuf, a déposé des arbres rouges au pied de ce mur des Fédérés où sont morts les derniers communards. Et bien, une photo a été prise ce jour-là. Je répète, c'est en mai 1913. Jaurès est au centre. Et il a l'air très malheureux. Évidemment, si vous regardez ceux qui l'entourent, il y a là tous les notables du Parti Socialiste, il y a un gros type avec sa écharpe de député, qui est là qui tape sur sa cigarette pour faire tomber l'ensemble, il y a un qui raconte une histoire obscène à un copain qui rigole, tout ça devant vous et les fédérés. Et lui, Jaurès est là au centre avec un regard malheureux, un regard de côté, comme s'il voulait s'en aller, comme s'il déchirait le cœur de penser à ce que ça fait le parti. Et j'appelle votre attention sur une phrase qui va me servir de conclusion, c'est maintenant que je vais vous dire ce qui me tient le plus à cœur. C'est une phrase qu'il a écrite au chapitre 10 de l'Armée Nouvelle, où il quitte son sujet proprement dit de l'armée, où il parle même d'autre chose que du Parti Socialiste, il parle brusquement mais très rapidement de philosophie. Et il dit, alors je vais faire, je voulais dire lentement cette phrase, j'ai sur ce monde si cruellement ambigu, une arrière-pensée, en laquelle la vie de l'esprit me paraît à peine tolérable à la race humaine. Est-ce qu'elle est mystérieuse, son arrière-pensée? Mais non, elle est très claire. En janvier 1910, il va parler à la Chambre et faire un discours métaphysique. Rendez-vous compte aujourd'hui dans une chambre, je ne sais pas, en Belgique, mais en France, quelqu'un qui voudrait faire un discours métaphysique, on dit, monsieur, soyez sérieux. Ben, lui, il va faire un discours métaphysique. Et il va dire, j'ai eu, il y a 20 ans, écrit sur la nature et Dieu, un livre dont je ne remets pas une syllabe et qui est resté la substance même de ma pensée. Par conséquent, en 1910, il va mourir en 1913, il en revient au livre qu'il avait écrit, qui était sa thèse de 1899, 1892, et cette thèse nous explique son arrière-pensée. À quelle est-elle donc sa arrière-pensée du reste? Il va raconter, ça c'était au début de sa thèse complémentaire, sur les origines historiques et les socialistes allemands, un fait personnel. La première fois que j'ai visité mes parents, et que je suis allé à Paris préparer le concours d'entrée à l'école normale, j'étais donc pensionnaire à Sainte-Barbe. J'étais triste, j'étais intimidé, j'avais une petite fenêtre au-dessus de mon lit, la nuit était très pure et je regardais ce ciel avec des constellations. Et un double sentiment est entré en moi, disait Jaurès. Un sentiment naïf et enfantin. Je trouvais qu'une espèce de tendresse venait de ces constellations. Tout après, je suis devenu raisonnable et je me suis dit non. Ces constellations sont à des distances inimaginables dans les lumières de nous. Qu'est-ce que nous sommes, nous, de pauvres gens infimes sur la surface de la Terre, par conséquent, il n'y a qu'une indifférence dans le ciel. Et tout à coup, le Jésus dit, viens. Le Jésus dit, viens, je crois de Pascal. On dit, l'homme, l'individu, mais tout est une pensée microscopique. Mais ça, c'est du côté de spatial, puisque vous parlez de dimension. Et c'est parfaitement vrai que le corps humain, l'individu humain, est tout petit. mais vous n'avez pas le droit d'imprimer votre exercice à un billet juré parce qu'il s'agit de l'esprit. Car à l'intérieur de cet homme, il n'y a rien du tout. Il y a un esprit qui est capable de concevoir l'infini. Or, l'esprit n'est pas justifiant du système métrique. Alors, comme nous ne parlons pas simplement du petit être de l'homme, ça n'existe pas. La société de l'animal, tant que vous voudrez. On ne peut pas parler de petit être pour un homme qui a en lui une conception de l'infini. Et on pourrait, si vous me permettez, enchaîner ici, par une parenthèse, une réponse à M. Baudelmoulot, que je respecte beaucoup, Jacques Meul, hein, qui dans son livre sur la, le hasard et l'insignité, parle de l'insignifiance de l'homme. Mais non, l'homme n'est pas insignifiant. Et quand vous êtes, il est évidemment insignifiant parce que tout ce qui est, cet homme capable de concevoir l'infini et tout ce qui est lui. Car quand c'est que c'est avec l'évolution, c'est non seulement qu'il a conçu, mais qu'il est capable, étant donné la puissance nucléaire aujourd'hui, capable de stopper l'évolution. Or, on peut dire par l'insignifiance d'un être qui est capable d'agir sur l'évolution du même. Bon. Premier point, je reste donc quelqu'un qui n'est plus intimidé par les fameux arguments de la petitesse ou de l'intimité de la créature humaine. C'est un homme qui a quitté le catholicisme depuis longtemps, mais qui roule sur le christianisme. Et qui se dit qu'il y a peut-être là tout de même une réponse intéressante à l'énigme de la destinée. Et lorsque Tolstoï est mort en 1910, je reste à faire en février 1911 un discours à la Ligue des droits de l'homme de Toulouse où il va dire nous devons beaucoup de reconnaissance à Tolstoï. Parce que le patron, c'est un homme qui est obsédé par ses gains. L'ouvrier est un homme qui est enfoncé dans des ordres économiques. Et c'est tout à fait une réalité du front et de la bouche pour un cri dans la vocation. Et nous, notre homme politique, pris dans la bagarre politique, nous sommes à chaque instant exposés à une vidéo constituée de nuit à l'éconstellation, souvent dite calorique Paris. Je me suis aperçu que l'éclairage brutal d'en va cache les lumières de l'esprit. Et comme ça, au contraire, c'est quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous met en présence de ce mystère des constellations, qui nous rappelle la destinée humaine. Alors, qu'est-ce qu'il pense là-dessus, le reste? Il pense à un langage parlementaire que l'homme est considéré comme une commission d'enquête qui se trouvait dans l'habitat humain. Et la science, disait Jaurès, la science, a déjà établi des choses importantes. La science a établi premièrement que tout évolue, et que l'évolution est orientée dans un certain sens. Au départ, il n'y a que la matière, et puis là, les créatures humaines, dont on dit que c'est la même filiation. Alors, au départ, il y a une créature, il y a une matière simplement, et puis vous arrivez à l'homme tel qu'il est aujourd'hui, qui est peut-être le fer de lance d'évolution, dans lequel il y a une intelligence. Alors, si même vous n'admettez pas, il n'accepte pas, dit le reste. Si on n'accepte pas l'idée d'une intervention datée, mystérieusement datée, de Dieu qui va insuffler l'âme à l'homme, vous rappelez la fameuse phrase de Michel-Ange, où on voit le dieu barbu qui prend la main vers un Adam, et avant même que leurs doigts se touchent, Adam a reçu là, si on n'accepte pas qu'il y ait une intervention datée et historique de Dieu, il faut donc admettre que dès le départ même, et dans ce premier battement de la vie, il y avait la virtualité de l'esprit, la matière et la virtualité de l'esprit. Ce qui fera dire à un homme comme Lénine qui ne se rend pas compte de ce qu'il vit, la matière pense. Et dit Jaurès, cette matière est la suprême inconnue, à l'intérieur même de la matière, il y a une sorte d'immanence que j'appellerai carrément, dit-il, une immanence divine. D'autre part, l'évolution est orientée. C'est Jean-Bernard qui l'avait dit là, l'évolution répond à une certaine idée réclée. Comme si l'évolution de toutes les choses sur la Terre était commandée, était aspirée dans une certaine direction. C'est ce que Teilhard reprendra avec l'idée du point alpha et puis du point oméga. Ce point oméga, c'est qu'il n'y a pas simplement dans l'évolution une poussée de l'intérieur, mais un appel de l'intérieur. Et dit Jaurès, cet effort, cet appel d'air, c'est quelque chose qui assure l'évolution, pourquoi m'empêchez-vous de l'appeler Dieu? Je sais bien, disait-il à la chambre, que je m'adresse à des radicaux qui n'aiment pas qu'on prononce ce mot Dieu. Et moi, je voudrais essayer de comprendre ce qu'il y a d'intelligible dans cette fille-là vertigineuse. Et il dit de même que quand on analyse le fait de l'humanité, le fait de l'évolution, et qu'on essaye de se retirer ensuite vers le fait humain, nous apercevons qu'à l'intérieur de tous les hommes, il y a une aspiration vers l'infini. Tout le monde espère quelque chose. Et ce n'est pas simplement la projection subtile dans une réalité subtile, la désir qui est en même temps, c'est l'idée de Marx, vous savez, Marx disait, la religion c'est le soupir de la créature écrasée par un monde sans cœur. Mais j'aurais dit, le seul fait que nous aspirions vers le bien, vers un bien absolu, prouve que ce bien existe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas désirer quelque chose si on n'a pas déjà une préconnaissance. Tenez, pour désirer une femme, il faut l'avoir vue. Mais ne pas encore la posséder. Il y a de même pour Dieu, pour ce qui représente Dieu, c'est-à-dire cette espèce de totalité vivante de ce que nous espérons, il faut déjà que nous ayons une connaissance intuitive. À l'intérieur de l'être humain, disait Jaurès, il y a une préconnaissance de Dieu. Et Dieu pour lui, mon Dieu, c'est pas du tout, vous savez, ce Dieu qui se fait, dont parlera un livre peu précis qu'il s'efface, ni ce Dieu gazeux de Renan, ni le Dieu en poudre du panthéisme, mais, disait Jaurès, un centre de flamme. Et ça m'a beaucoup frappé, il y a peu de temps que je le sais, que saint Thomas, que j'ai intelligemment pratiqué, disait dans une formule qui m'a frappé, Ob quod cognominam museum, c'est là que nous appelons Dieu, et qu'est-ce qu'il disait saint Thomas? C'est là que nous appelons Dieu, c'est la totalité vivante de ce vers quoi notre cœur se dirige spontanément. Jaurès, non, pas sérieux, a parlé de connaissance du cœur. J'aime pas cette formule parce que ça fait penser à presse du cœur. Je vous proposerai, moi, interprétant la pensée de Jaurès, connaissance par contact. Nous avons une connaissance intuitive et intérieure de nous par contact de cette réalité du juif. Lorsque ce qu'il dit Jaurès quand il nous parle de l'histoire, il dit l'histoire, c'est une réponse entre couteau et balbutiante de la création humaine, de l'aventure humaine, dans une certaine direction dont on a une idée confuse. Et puisque c'est que le socialisme, disait Jaurès, dans les socialistes sont les gens qui prennent au sérieux ce que les chrétiens répètent machinalement matin et soir, en disant que ta volonté soit faite. Je ne sais pas ce que c'est la volonté de Dieu, dit-il. Et je sais très bien que nous avons fondé une exigence de justice. Et bien nous allons chanter avec le socialisme construire une maison d'espérance pour l'humanité. L'humanité est enfoncée dans la nature jusqu'au cœur. Et je voudrais, disait Jaurès, une cité où l'homme puisse accomplir sa destination. Voyez-vous, quand il dit ça, il reprend exactement le fond de la pensée de Jean-Jacques dans la conférence contre Jean-Jacques, et la pensée de Robespierre dans son discours d'avril 1794 sur les principes du gouvernement républicain, où reprenant la position même de Jean-Jacques, Jaurès disait, nous voulons une cité, une organisation de la cité juste, où l'homme puisse capable de répondre à ce qu'il est essentiel.